Au matin, quand j'eus fini d'écrire, j'ouvris le paquet de la Fuyarde et je vis le titre de son manuscrit. « Je ne sens pas ma force ». « C'est bien vrai, ça », pensais-je. Je le lus dans la foulée. « Je préfère n'en rien dire sinon ceci. Si un texte méritait l'adjectif « terrible », c'était celui-là. Il allait falloir présenter ce roman aux éditeurs à la place de Miss Fanto. Ce ne serait pas de la tarte. Sacrée Pétronille, tu viens à peine de partir et tu es déjà encore plus embêtante que quand tu es là. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements. Je fis l'après-midi même des photocopies du manuscrit et les expédiai à divers éditeurs en laissant mon nom et mon adresse. Le résultat fut à la fois à la gloire et au déshonneur de l'édition française. Que mon nom accélère les démarches, c'est dans l'ordre des choses. Que tous les éditeurs refusent un texte aussi beau et périlleux, c'est une honte. Mais signalons qu'aucun d'entre eux ne m'attribua ce manuscrit. Ce qui prouve une chose admirable et rassurante, on sait encore lire dans cette ville. Pour autant, je n'allais pas m'avouer vaincue. Puisque les envois postaux n'aboutissaient pas, j'irai en personne apporter le manuscrit aux maisons d'édition. Que je me déplace exprimerait la profondeur de ma conviction. Dont acte. S'ensuivirent un grand nombre de rendez-vous. On me recevait avec ahurissement, car ma réputation de fidélité envers Albin Michel est celle de Pénélope envers Ulysse. Je me hâtais de décevoir en annonçant que ce n'était pas mon texte qui motivait cette visite. « Vous faites cela pour beaucoup d'auteurs ?» me demandait-on. « C'est une première et cela restera unique. » Il me fallait alors attendre leur verdict. Accessoirement, j'étais aussi un écrivain et un être humain. Je continuais donc à écrire et à vivre. Le plus difficile fut de trouver un autre compagnon de beuverie. Comble de malchance, l'excellente Théodora, qui buvait avec tant de grâce, choisit ce moment pour s'installer à Taïwan. L'année 2006 serait pour moi ce qu'elle serait pour Pétronille, une traversée du désert. De toute façon, l'heure n'était pas au plaisir. Les refus qu'essuyait le manuscrit de Pétronille par mon intermédiaire m'affectaient de plus en plus. Il se trouva même une éditrice jeune et sympathique pour me dire in texto. « Ne vous donnez pas tant de mal pour cette Fanto, vous savez bien que dans le monde des lettres, les prolétaires n'ont aucune chance. » Je n'aurais pu inventer une pareille déclaration et j'en restais sans voix. Si je l'écris ici, c'est parce que je ne peux pas occulter qu'à Paris, en 2006, une telle chose m'a été signifiée le plus sérieusement possible. À d'autres que moi le soin de commenter. Quand mon moral coulait, je me réconfortais en pensant. Imagine qu'un éditeur accepte ce texte et réclame l'auteur. Tu te verrais contrainte de dire que Pétronille Fanto est dans le Sahara pour une durée indéterminée et le contrat serait ajourné, et donc aussitôt oublié. Il y aurait de quoi grincer des dents, non? C'est mieux ainsi. J'avais aussi mes propres romans à défendre. Mon éditrice italienne m'envoya faire des dédicaces à Venise, où je débarquais en plein carnaval. Dans les rues, on me félicitait pour mon déguisement. Je portais simplement ma tenue de travail. Il y eut une controverse autour de mon chapeau, qui selon les Français était celui d'un prêtre réfractaire et selon les Italiens, celui d'un médecin pendant l'épidémie de peste. À l'automne, j'observais les migrations des oies sauvages. « Pétronille, quand reviendras-tu ? » Il va sans dire que je n'avais aucune nouvelle. Elle était peut-être morte. En même temps, comme je ne lui avais toujours pas trouvé d'éditeur, elle avait raison de ne pas être là. Je lus ce texte de Rimbaud à la veille de disparaître. « Je reviendrai, avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. » J'aurai de l'or, je serai oisif et brutal. » Ces mots splendides résonnèrent curieusement en moi. Reverrai-je Pétronille un jour? Si oui, en quel état? En novembre, je trouvai une compagne de beuverie digne de ce nom, en la personne de Nathanaël, une jeune amie fraîchement installée à Paris. C'était une fille fiable à 100%, ce qui est la caractéristique la plus importante pour ce rôle. Après plusieurs flûtes de champagne, on révèle forcément ses secrets. Par définition, la confiance est absolue. Les êtres de confiance se comptent donc sur les doigts d'une main. La deuxième caractéristique la plus importante de la compagne de Beuvry consiste à ne pas cracher dans son verre. Sinon, on a l'impression de boire seul, ce qui est précisément ce que l'on veut éviter. La troisième caractéristique attendue est d'avoir le vin gai. Le but n'est pas de partager de l'aigreur. Nathanaël s'avéra idéal. En cette matière, comme en toutes les autres, il ne s'agissait pas de remplacer qui que ce soit. Personne ne remplace personne. Mais la vie redevint plus légère. La malédiction éditoriale ne devait frapper que 2006. Fin janvier 2007, je reçus une réponse favorable de Fayard pour le manuscrit de Pétronille. Ma joie fut plus vive encore que lors de l'acceptation de mon premier roman par Albin Michel. Il ne me manquerait plus que la présence de l'auteur et tout serait parfait, pensais-je. Comme la lettre de Fayard stipulait qu'on désirait rencontrer Mademoiselle Fanto, je songeais à engager une actrice ressemblante pour jouer le rôle quand le téléphone sonna. « C'est Pétronille. »«
Pétro ? Tu m'appelles du désert ? » ?»«
Non, je suis à la gare Montparnasse. Viens me chercher, j'ai oublié comment ça fonctionne ici. » Je courus à la gare, m'attendant à tomber sur la réincarnation de Laurence d'Arabie. Elle n'était que marron foncé, les yeux exaltés, le corps amaigri, mais on la reconnaissait. « Salut l'oiseau.
Où veux-tu aller ? Chez toi ? » ?»«
Je sais pas, j'habite où ?» Tandis qu'un taxi nous conduisait dans le 20e arrondissement, je la pressais de raconter. Elle ne disait rien, ou presque.
« Nous sommes le 31 janvier, » lui dis-je. « Tu es parti plus d'un an. Est-ce que l'expérience t'a plu ? » ?»«
Au-delà. Au-delà. »
Par bonheur, j'avais un double de ses clés, car elle n'avait plus les siennes. Elle contempla son appartement avec stupeur.
« Ça va me faire bizarre de pas dormir sous le ciel. »
Le sol était jonché de factures et autres courriers que la concierge avait glissés sous la porte. Pétronille ramassa et jeta tout à la poubelle. J'intervins.
« Les impôts ?»« J'étais pas en France en 2006. S'ils sont pas contents, qu'ils me mettent en prison. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange dans ce pays ?»
Au bistrot du coin, je lui commandai d'autorité du petit salé aux lentilles pour qu'elle se réacclimate à son biotope. Ensuite, je lui annonçai la grande nouvelle.
« J'ai trouvé un éditeur pour ton manuscrit. »«
Ah oui ?» répondit-elle, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Moi qui savais combien cela avait été difficile, je l'eus un peu mauvaise. Je fus tentée de lui raconter les humiliations que j'avais essuyées en son nom. J'y renonçais, parce que c'était trop laid. Et, de dégoût, elle aurait risqué de retourner aussitôt dans le Sahara. Le pire, c'est que je la comprenais. Que son texte ait trouvé éditeur était en effet la chose la plus normale du monde.
« C'était quoi déjà, mon manuscrit ?»«
Je ne sens pas ma force. »«
Je ne sens pas ma force ? C'est bien vrai, ça. »«
Tu devrais le relire. Fayard veut te rencontrer. »«
Rien de presse. »
Si, j'ai pris rendez-vous pour toi le 6 février. » C'était faux, mais elle commençait à m'énerver avec son détachement. Les assiettes arrivèrent. Pétronille se mit à manger les lentilles avec ses mains.
« Tu en fais trop, là, » dis-je.
« Les Touaregs, » fit-elle d'un air lointain. « Je n'en doute pas, mais le 6 février, si par miracle l'éditeur t'invite à déjeuner, tu te sers de tes couverts. » L'après-midi, je la mis d'autorité au lit, bien qu'elle prétendît dormir à même le plancher, et j'appelais Fayard pour fixer le rendez-vous du 6 février. Je passais les jours suivants en apnée à l'idée que Pétronille ait une attitude désastreuse pendant ce rendez-vous. Le 6 février au soir, elle me téléphona pour m'assurer qu'elle avait produit la meilleure impression. Comme cela pouvait vouloir tout dire, je lui demandai si elle avait signé un contrat.
« Pour qui me prends-tu ? Bien sûr ! Mon livre paraîtra à la rentrée, comme le tien !»
Je l'invitai aussitôt à sabler le champagne et constatai avec soulagement que les Touaregs n'avaient pas réussi à l'en dégoûter.